le château de l'âme ou le livre des demeures. Jésus, parmi les choses qui m'ont été commandées par l'obéissance, eux m'ont paru aussi difficiles que d'écrire sur l'oraison. Depuis 3 mois, il y a un tel bruit dans ma tête, et elle est si fatiguée que c'est à peine si je peux écrire les affaires indispensables. Je sais cependant que les difficultés, considérées comme insurmontables, sont aplanies par la force de l'obéissance. Que le Seigneur daigne mener à bonne fin son travail. J'ai mis ma confiance en sa miséricorde. Si Dieu veut que je dise quelque chose de nouveau, qu'il m'inspire ou qu'il me fasse ressembler ce que j'ai écrit ailleurs. Je commence cet acte d'obéissance ce jour de la fête de la Sainte Trinité de l'an 1577, dans le monastère de Saint-Joseph du Carmel de Toulouse. Le Père Gratien m'a ordonné de faire cet écrit. A-t-il le besoin qu'on lui sert de notre monastère devoir expliquer certaines difficultés relatives à l'oraison. Il croit que le langage d'une femme sera mieux compris d'elle, et que étant donné leur affection pour moi, les paroles seraient plus efficaces que d'autres. C'est pourquoi je leur adresse cet écrit. Si j'arrivais à dire quelque chose de bien, qu'elles comprennent que cela ne vient pas de moi. Première demeure. On peut considérer l'âme comme un château fait d'un seul diamant, contenant un grand nombre d'appartements. En fait, l'âme du juste est un paradis où le Christ fait ses délices. Nous n'avons aucune raison à vouloir connaître la beauté de ce château. En tout cas, il est fait à l'image de Dieu. Nous savons que nous possédons une âme, parce que la foi nous enseigne. Mais quels biens sont inclus en elle? Quel est celui qui réside au-dedans d'elle? Considérons donc que ce château a des appartements très nombreux. Un Dieu si grand peut se communiquer à des vers de terre comme nous. Quand il accorde ses faveurs à certaines âmes, ce n'est pas parce que ces âmes sont plus saintes, mais parce qu'il entend manifester sa grandeur. Ainsi, dans Saint Paul et dans Sainte Madeleine. Revenons à notre merveilleux château. Comment y entrerons-nous? Nombreuses sont les âmes qui se trouvent à l'extérieur du palais. Parlons de ces âmes qui finissent par pénétrer dans le château. Quoiqu'elles soient engagées dans le monde, ces âmes ont de bonnes aspirations. Elles entrent dans les premières demeures, mais accompagnées de reptiles qui leur enlèvent tout repos et la vue du château. Avant de continuer, je veux vous inviter à songer quel spectacle ce serait de voir ce château si beau, cette perle d'Orient, cet arbre de vie planté au milieu des eaux vives. Lorsque l'âme tombe dans les péchés mortels, elle est plongée dans les ténèbres si épaisses que rien ne peut leur être comparé. Le soleil qui donnait tant de clarté à ce château se trouve encore au centre, mais c'est comme s'il n'y était plus. De là vient que toutes les œuvres accomplies par l'âme en état de péché mortel ne lui méritent aucune gloire au ciel. Le but de celui qui le commet n'étant pas de plaire à Dieu, mais au démon. Mes filles, que Dieu vous donne le désir de prier pour les âmes en cet état. Remarquez que la source de vie ou le soleil resplendissant, qui est au centre de l'âme, ne perd ni son éclat, ni sa beauté, mais qu'il est voilé. Il ne s'agit ici que de la première demeure. Elle est cependant très riche, et même d'une si grande valeur, que l'âme qui s'est débarrassée des reptiles qui s'y trouvent, ne peut faire autrement que d'aller plus loin. Je dis qu'il y avait une infinité d'appartements. Les âmes y entrent animées de bonnes intentions. Hélas, le démon introduit dans ses demeures des légions de mauvais esprits. Cependant, son pouvoir est moindre auprès de celles qui sont plus près de la demeure où Dieu habite. Dans les premiers appartements, les âmes sont sous l'influence de l'esprit du monde, grisées par ses honneurs et ses prétentions. Elles sont facilement vaincues. Elles ont besoin du secours de Dieu. Il leur faut découvrir les pièges du démon quand il ne se transforme pas en ange de lumière. Il agit comme une ligne sourde. Ainsi, il cherche à refroidir la charité et l'amour que se portent mutuellement les sœurs. Mes filles, comprenons que la véritable perfection réside dans l'amour de Dieu et du prochain. Mieux nous observerons ces deux préceptes, plus nous serons parfaites. Deuxième demeure. Nous allons à présent voir des âmes qui entrent dans les deuxièmes demeures et juger ce qu'elles y font. Elles ont compris combien il importe de ne pas rester dans les premiers appartements. Ces âmes fuient les bêtes venimeuses. Elles courent moins de dangers, mais souffrent bien plus que celles qui occupent les premières demeures. Elles perçoivent les appels que leur lance le Seigneur, puisqu'elles sont plus près du lieu où Dieu habite, lui qui a tant de miséricorde et de bienfaits. Ces âmes font encore des chutes, mais se relèvent de leurs fautes. Le Seigneur ne manque pas de les inviter à se rapprocher de lui par l'intermédiaire des gens de bien, des sermons, livres de piété, etc. Par les maladies et les épreuves, ces âmes se livrent à l'oraison. Dieu en fait grand cas. La persévérance nous est très utile ici, mais dans ces demeures, l'âme est plus éveillée pour livrer bataille aux démons. Ô Jésus, quel vacarme font les démons en lutte contre cette âme. La foi enseigne à l'âme ce qui est capable de combler ses vœux. Elle se représente des personnes qui jouissaient de la prospérité et sont aujourd'hui sous terre, foulées par le pied des passants. Ce qui intéresse cette âme, c'est le véritable amour, lui tient toujours compagnie. L'entendement lui dit que hors de ce château, elle ne trouvera ni paix, ni sécurité. Oui, ici l'âme endure de très vives souffrances. Tout l'enfer est uni pour la contraindre à quitter le château. Ô mon Dieu, cette âme a besoin de votre aide pour ne pas abandonner l'œuvre commencée. Lorsque le démon verra qu'elle préfère prendre la vie, plutôt que de revenir dans la première demeure, il la laissera. Prenez sur vos épaules, mes sœurs, la croix que votre époux a portée sur les siennes. Ainsi, l'unique ambition de celui qui commence à s'adonner à l'horizon est de ne négliger aucun moyen pour rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. Je vous ai déjà dit, mes sœurs, comment vous vous dirigerez au milieu des troubles suscités par le démon. Je vous répète que la porte d'entrée du château est l'oraison. Troisième demeure. Que dire aux âmes entrées dans les troisièmes demeures, si ce n'est « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur ». Celui-là est sur le vrai chemin du salut. Cependant, mes sœurs, vous n'êtes pas en sûreté. David était très saint. Voyez ce que Salomon est devenu. Aussi méditez souvent ce verset. Beatus vir qui timet dominum. Heureux l'homme qui craint Dieu. L'entrée dans les troisièmes demeures n'est pas une petite faveur que Dieu a ménagée à ses âmes. Elles sont nombreuses dans le monde. Elles sont en garde, même contre les péchés véniels. Ça donne à la mortification, mon désir de recueillement. Elle se livre à des œuvres de charité envers le prochain. Il semble que le Seigneur ne leur refusera pas l'entrée des dernières demeures. Il nous paraîtra que nous avons fait tout ce qu'il faut. Pour Dieu, nous avons renoncé à tous les plaisirs terrestres, mais il faut encore nous regarder comme des servantes inutiles. Il faut soumettre en tout notre volonté à celle de Dieu. Ne pas vouloir que notre volonté s'accomplisse, mais la sienne. Tant que nous ne serons pas là, humilions-nous. Nous ne devons pas servir Dieu en marchant à pas comptés. Attendons au contraire pour voir notre Seigneur. Les personnes arrivées à cette troisième demeure doivent s'exercer à une prompte obéissance. Elles doivent chercher un directeur afin de ne suivre en rien leur propre volonté. Qu'elles choisissent un guide détaché de tous les biens du monde. Les personnes habituant les troisièmes demeures feront bien d'éviter les occasions d'offenser Dieu. Notre Seigneur aura soin des âmes qui lui sont chères. Quatrième demeure. Elles sont plus proches de la demeure du roi. Leur beauté est également plus éclatante. Ne croyez pas qu'avant d'entrer dans ces demeures, il faille rester longtemps dans les précédentes. Le Seigneur donne ses grâces quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Les bêtes venimeuses pénètrent rarement dans ces demeures. Si elles y arrivent, l'âme en tire plutôt du mérite, car elle est élevée à l'état d'oraison. Je vais à présent vous expliquer la différence qui existe entre les contentements que l'on ressent pendant l'oraison et les goûts que j'appellerai contentements et satisfactions que nous ressentons quand nous prions notre Seigneur. Ces contentements naissent de l'acte vertueux même. Nous avons donc raison de nous réjouir. Ils ne dilatent pas le cœur, ils le resserrent. Je connais par expérience les contentements que l'âme ressent durant la méditation. Ces contentements Nous devons les estimer quand l'humilité les accompagne. Il est plus important d'aimer beaucoup que de penser beaucoup. Ne vous laissez pas troubler par d'importunes pensées. Il faut prendre patience et souffrir pour l'amour de Dieu. Tous les mépris et les épreuves de la terre ne me paraissent rien à côté de ces combats intérieurs. Le Seigneur nous en délivrera quand nous serons parvenus aux dernières demeures. L'oraison de recueillement est surnaturelle. On a l'impression que l'âme rentre au-dedans d'elle-même. Considérons que nos sens et nos puissances qui habitent ce château intérieur de l'âme l'ont quitté et se sont mêlés à des étrangers. Ils ne peuvent s'y retourner. Dieu alors les ramène à lui. Lorsque l'on cherche Dieu, on le rencontre mieux en soi que dans les créatures. C'est là que saint Augustin l'a trouvé. Le recueillement est une disposition à écouter les paroles de Dieu. L'âme doit se remettre entre ses mains pour qu'il fasse d'elle ce qu'il lui plaira. Voilà les sentiments qui conviennent le mieux à l'âme que le Seigneur a élevé aux quatrièmes demeures. Elle pense qu'elle est dans la présence de Dieu et considère qui il est. L'âme goûte alors une joie très vive de se voir si près de Dieu. Mais cet état passe très vite. Cinquième. Ô mes sœurs, comment pourrais-je vous expliquer les richesses et les délices des cinquièmes demeures? Les paroles ne peuvent l'exprimer. L'entendement ne peut pas le comprendre. Seigneur, envoyez-moi votre lumière afin que je puisse quelque peu éclairer ces religieuses. Vous avez daigné lever quelques-unes d'entre elles à ces délices. Elles sont cependant peu nombreuses dans ces cinquièmes demeures. La plupart y entrent, mais restent à la porte. Nous sommes toutes appelées à l'oraison et à la contemplation. Extérieurement, nous allons bien. Et pour arriver au point dont je parle, il faut beaucoup travailler. Implorons le Seigneur pour qu'il nous accorde son aide. Prions-le de nous guider et de donner nos âmes la force de creuser jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce trésor caché. Notre raison peut être arrivé jusqu'à l'union. Toutes nos facultés sont endormies par rapport au monde. Pendant le peu de temps que dure cette oraison, l'âme est privée de sentiments. Si elle aime, elle ne sait pas comment elle aime. Elle est morte au monde pour vivre davantage en Dieu. Mort pleine de délices, l'âme étant libérée de toute opération, paraît séparée du corps pour mieux jouir de Dieu. L'entendement cherche à comprendre quelque chose à ce que l'âme ressent, mais il est ravi, presque dans l'extase. Je dis que ce n'est pas le sommeil. L'âme est-elle dans une illusion ou endormie? Est-ce une grâce de Dieu ou une ruse du démon? Le démon ne peut entrer dans le cinquième demeure. Dieu est si étroitement uni à l'âme que le démon n'ose s'en approcher. Pendant cette oraison, l'âme ne voit ni n'entend ni ne comprend rien. Dieu s'établit en elle, si bien que, revenue à elle-même, elle n'en saurait douter. Ce n'est pas vraiment une vision, mais une certitude que Dieu seul peut donner. Dieu est en nous par sa grâce. Ne croyez pas que cette certitude ait pour objet une forme corporelle comme la présence réelle de notre Seigneur dans son sacrement. Nous ne pouvons pas comprendre cette union que seul Dieu réalise. Il pénètre au centre de notre âme sans franchir aucune de ses portes. Comme il entra au cénacle en disant « La paix soit avec nous ». Nous ne sommes pas dignes, mes sœurs, d'être les servantes d'un si grand maître, dont les merveilles dépassent notre entendement. Semblable au ver du mûrier, l'âme commence à vivre par la chaleur de l'Esprit Saint. Elle use des remèdes confiés à son Église, comme la confession fréquente, les bons livres, les sermons, remèdes qui aident l'âme à reprendre vie et à s'approcher du Christ. Il faut nous efforcer que le Seigneur devienne notre demeure. Nous aurons à peine terminé ce qui dépend de nous, que Dieu unira ce petit travail à sa grandeur. Ceux qui sont arrivés à cet état ne se trouvent toujours pas dans le repos et les délices. Quand ils se mettent en oraison, ils pleurent en pensant que tant d'âmes ne sont pas soumises à la volonté de Dieu et qu'il y a tant d'hérétiques, tant de morts qui se condamnent. Qui reçoit ses hautes faveurs doit se maintenir dans l'obéissance, être prêt à se sacrifier pour la volonté de Dieu. Les peines n'empêchent pas mes sœurs d'être unies à la volonté de Dieu. Toute ma vie, je désirais l'union que je ne cesse de demander à notre Seigneur. Il ne faut pas oublier la charité. Si elle manque, tout est perdu. Vous avez souvent entendu dire que Dieu épouse d'une façon spirituelle les âmes. Béni soit la miséricorde qui le fait s'abaisser ainsi. Aussi, âme chrétienne, élevée à cet état par le Seigneur, ne vous négligez pas, fuyez les occasions dangereuses. Le démon ne laissera pas échapper une occasion de vous combattre. J'ai connu des âmes très élevées, parvenues à cet état que le démon a fait succomber. Voyez les milliers de conversions faites par les martyrs, par une vierge comme Sainte Ursule. Qui pourra dénombrer les âmes arrachées au démon par Saint Dominique, par Saint François? C'est parce qu'ils ont fait porter tous leurs efforts à ne pas rompre de ces divines fiançailles par leur faute. De notre raison, nous devons demander sans cesse à Dieu qu'il nous soutienne de sa main. Autrement, nous tomberions au fond du précipice. Nous ne devons jamais avoir conscience en nous-mêmes. En tout cas, nous ne devons jamais cesser d'avancer dans la vertu.